Vous avez été plusieurs à me poser des questions à la suite du reportage sur les îles de la Madeleine. Et vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les îles. Mais dans cette vidéo-là, je me propose de vous présenter les lieux qui m'ont marqué, qui m'ont influencé et aussi que j'aime particulièrement. Dans un premier temps, le musée de la mer, le plus beau musée des îles, sans doute là. Ensuite, on va à l'île d'entrée, une petite île un peu plus loin que les îles. Ben, en fait, ça fait partie des îles, mais c'est un peu éloigné. Il faut prendre le traversier, ou plutôt un bateau, qui relie Cap aux Meules à l'île d'entrée. Ensuite, La Grave et Sandy Hook. Et finalement, on finit par le fumoir. Le fumoir d'antan, pour se restaurer un peu. Allez, je vous présente ça maintenant.
Bonjour Gabrielle.
Bienvenue au musée.
Merci Gabrielle, vous êtes directrice générale du musée de la mer.
C'est bien cela.
Où on se trouve actuellement. Puis je suis déjà venue, moi, au musée une fois. J'ai adoré ça, mais il y a des choses que je n'avais pas le temps de regarder. Il y a une carte en plein milieu ici. Puis il y a quelque chose, ça je l'avais vu, mais on n'avait pas raconté l'histoire.
OK.
La baleine. Mais je veux qu'on commence par,
par la carte.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, ça, c'est au fond une façon de dire à nos visiteurs que ici, histoire et territoire, c'est une seule et même chose.
Oui.
Donc, c'est notre situation géographique en plein milieu du golfe Saint-Laurent qui a tout déterminé depuis les tout débuts, depuis les premières explorations et les premières exploitations de ressources ici, jusqu'à aujourd'hui, ça détermine toute notre histoire. Donc, l'histoire des îles, là, si tu veux une mise en contexte, tu peux faire comme deux grandes catégories. Il y a avant qu'il y ait une communauté qui s'installe ici, et puis depuis qu'il y a eu une communauté. Avant qu'il y ait une communauté, pendant que Christophe Colomb se promenait dans les Caraïbes, les Basques étaient déjà ici en train de pêcher la morue. Donc, on est dans les années 1400, fin 1400. Là.
Donc, on est au 15e siècle.
On est au 15e siècle. Donc, évidemment, les îles, qu'est-ce que ça représente? D'abord, un danger en plein milieu du golfe. Il n'y a pas de relief, on peut faire naufrage facilement, il y a des dunes, il y a tout ce qu'il faut pour couler un navire. Donc, on fait beaucoup de cartes. On trouve les îles sur des cartes espagnoles, basques, françaises, anglaises, hollandaises, de toutes les façons, parce qu'il faut indiquer cette chose au milieu du golfe, si dangereuse,
pour
rentrer dedans déjà.
Ou si on rentre dedans, on peut pêcher.
Oui, exactement. Puis sur les anciennes cartes, on voit des petits poissons dessinés. Hein, comme ça, quelles sont les ressources qu'on trouve ici? On voit des loups marins, on voit des morses aussi dessinées.
Des morses qu'on appelle comment ici?
Les vaches marines.
Les vaches marines.
Voilà.
Exactement.
Il y en avait des centaines de milliers.
Vaches marines que morses. Mais moi, j'avais lu que la dernière vache marine avait été observée en 1799 et qu'il n'y en a plus.
C'est ce qu'on dit dans la tradition, mais définitivement, depuis la fin du 18e siècle, on n'a plus de vaches marines ici. Ils ont été exterminés. Il y a toujours eu une chasse sur des siècles, probablement par les Autochtones et les ancêtres des Premières Nations qui vivaient dans le golfe. Mais à un moment donné, ça s'est intensifié avec des moyens, des fusils, beaucoup plus de bateaux, tout ça. Puis bon, les vaches marines, à un moment donné, ils ont compris que les îles, il ne fallait plus venir ici. Fait qu'ils ont arrêté de venir tout simplement.
D'ailleurs.
Exactement. Ce qui les attirait ici, c'était les mollusques. Les vaches marines, les grandes défenses qu'ils ont, ce n'est pas pour se battre, c'est pour creuser dans le sable. Pour manger des bonnes palourdes puis des bonnes moules.
Ben, ils ont raison, j'aurais fait la même chose.
Donc, toutes ces ressources-là, finalement, fait qu'il y avait énormément de gens qui fréquentaient les îles, mais il n'y avait personne qui vivait ici. Mm. Alors, qu'est-ce que ça a pris pour qu'on ait une communauté ici? Ça a pris la conquête du Canada par l'Empire britannique, ça a pris les différents traités quand éparpillés tous les Acadiens et tout ça un peu partout, la déportation, et le retour dans le Golfe d'une certaine communauté d'Acadiens qui, certains s'étaient réfugiés, certains s'étaient cachés dans le bois, à l'île du Prince-Édouard, ils trouvaient de l'ouvrage ici, il y avait des sites de pêche organisés sur les entrées naturelles, là où il y avait des abris. Il y avait toujours des sites de pêche ici. Donc, à ce moment-là, cette communauté-là, elle démarre, mais assez tard. Mm-hmm. On dirait peut-être au début des années 1800, là, c'est là que ça commence pour de bon. Avec des femmes, entre autres, ça prend des femmes pour faire une communauté.
Pour faire des enfants, c'est utile, oui.
Si on veut avoir une communauté, c'est peut-être mieux. En tout cas, à ce moment-là, ça fonctionnait comme ça. Puis, évidemment, c'est la langue ici étant... ces Acadiennes-là parlaient tout français, donc c'est majoritairement la langue qui s'est installée ici assez rapidement quand même si on a un ou deux petits villages anglophones. Donc, dans la salle permanente, nous, c'est ce qu'on raconte, c'est l'histoire de cette communauté-là, comment elle s'est installée ici, comment elle a survécu. Et puis, c'est tout organisé en thématiques comme ça, les naufrages, la navigation. Évidemment, la mer n'est jamais loin.
C'est à voir absolument. Absolument. Je le conseille aux gens qui nous regardent. Là, si vous venez aux Îles-de-la-Madeleine puis vous venez pas au Musée de la mer, bien, il y a un problème avec vous, vraiment. Il faut y remédier, il faut venir.
Il faut quasiment commencer par ici.
Oui, je pense aussi.
Puis après ça, aller se promener aux îles, on comprend mieux les îles.
Mais là, il y a une autre chose que je veux qu'on regarde, c'est la baleine. Donc, on a un squelette de baleine en plein milieu du musée de la mer. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on a ça ici?
Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça ici? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle s'est échouée ici, la pauvre.
Oh, en effet.
Enfin, à Cachalot, enfin, le pauvre, parce que c'est dans la catégorie des baleines à dents. Donc, on a des baleines à fanon, des baleines à dents. Les cachalots sont des baleines à dents, comme les bélugas, par exemple, et les épaulards. Mais ils ont un ancêtre commun, qui remonte tout à un même ancêtre, là, 50 millions d'années passées, un pachycétidé, en tout cas un nom comme ça, qui a été découvert au Pakistan. C'est l'ancêtre commun de tous les cétacés.
Okay.
Un cachalot comme ça, aux îles, c'est très rare. Ça faisait une trentaine d'années qu'on n'avait pas vu ça. Donc, en 2008, le pauvre, il est venu mourir sur nos rives, du côté nord. Et là, vu que c'est quelque chose de rare aussi, il y a tout un groupe qui s'est mis en place. Peut-être des gens un petit peu fous, il faut être un petit peu cinglé.
La
parce
solidarité
que
des Madelinos.
Dépecer Moby Dick, quand même, là, c'est une tâche. Hein? Un peu, imaginez, une trentaine de tonnes, là. Alors, un gros, c'est devenu un projet de communauté, on va dire ça comme ça, avec des amis, des bénévoles, des gens de pêche océan, quelques spécialistes à travers ça, ont décidé carrément, hey, on le garde aux îles, puis on le met à l'époque à l'aquarium des îles, qui, dans l'entrefaite, a fermé.
Ah.
Alors, c'est comme ça que le musée en a hérité. Et les gens des îles aimant beaucoup les jeux de mots, il est devenu Cachalino.
Oh mon Dieu, j'adore ça, Cachalino. Donc, on l'appelle Cachalino, puis on peut le voir quand on rentre dans le musée.
Pour le moment, il est là encore, tant qu'il tient bon. Puis il est
pourquoi
quand même...
les câbles ne sont pas bien tirés?
Non, il n'y a pas de problème.
OK, c'est bon.
Il est solide. Il faut quand même avoir un œil sur lui parce que voir comment les os vont vieillir et tout ça. Mais jusqu'ici, ça va bien. Et donc, il est là et grâce à ça, on a quand même appris beaucoup sur cette espèce-là et sur les différentes sortes de baleines. Parce qu'ici, les baleines ne fréquentent pas vraiment beaucoup les îles du fait qu'on n'a pas assez de profondeur d'eau. Les baleines aiment bien les eaux très profondes. Mais donc, ça nous permet évidemment, et pour les enfants d'école et pour nos visiteurs, d'avoir ce gros résident permanent qui est là depuis 2008. Ça a pris 7 ans de travail quand même.
Quand même.
L'enfouir, faire sécher des parties, nettoyer, resécher. Oh. C'est très long, remonter tout ça, faire une maquette, décider comment le placer.
Ouais. Faire l'espace, avoir l'espace aussi, parce que c'est pas petit. À Montréal, il y en avait une baleine, là, mais bon, ça n'a pas fini de la même manière. C'est une autre histoire, ça.
Et là, lui, il fait plus de 13 mètres, puis il n'avait pas fini de grandir. C'était un juvénile.
Oh, un ado.
Pauvre chouette.
Donc, vous avez un ado.
On a un ado cachalot. Cachalino.
Merci beaucoup, Gabrielle. On va aller voir le musée à l'intérieur.
OK.
Puis on invite les gens à y aller, bien sûr. Mm-hmm. Vous êtes ouvert une grosse partie de l'année.
On est ouvert toute l'année, sauf peut-être une semaine ou deux dans le temps des fêtes. Le reste du temps, on est toujours ouvert. Les horaires peuvent changer, par contre, basse saison ou haute saison. Mais on les affiche tout le temps, là, partout sur notre site web, là, puis notre page Facebook, tout
Merci
ça.
Beaucoup, Gabrielle.
Ça fait plaisir. Bonne visite.
Merci. Une des choses qu'il faut absolument faire quand on va aux îles de la Madeleine, c'est se rendre à l'île d'entrée, que l'on peut relier à partir de Cap-aux-Meules. Il est très tôt le matin, puis là, on s'en va sur le traversier à l'île d'entrée. On va aller vous faire découvrir ça. Dans notre cas, le mien et celui de mon caméraman Mathieu, on est parti très tôt le matin pour embarquer avec la compagnie Excursion en mer. La traversée est d'environ 45 minutes. Et comme ça a été notre cas, vous risquez de vous faire rincer. Ouais. Pas besoin de vous dire qu'il faut vous habiller chaudement aux îles, ça s'impose. Mais sur le fleuve et sur le golfe, c'est une nécessité absolue. Reste que la traversée est merveilleuse et vous donne l'impression d'être seul en mer, partant vers une aventure bien singulière.
L'île d'entrée est petite. On peut en faire le tour en une journée de marche sans problème. Elle compte 4 km de long par 2 km de large. Sincèrement, en arrivant là-bas, j'ai vraiment eu l'impression de changer de continent. Comme si on avait débarqué en Irlande. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres sur l'île et ça rappelle encore plus l'Irlande. Les vertes collines qui s'étendent donnent l'impression d'un paysage de roman où des héros et des héroïnes romantiques du 19e siècle vont pour se confronter aux éléments. Bon, là, c'est peut-être mon interprétation, mais reste que le paysage est magnifique. Quand Jacques Cartier aperçoit les îles, il signale la présence de Micmacs sur l'île d'entrée. Mais c'est pas avant le 18e siècle qu'une population commence véritablement à s'y établir. En 1806, on compte quelques familles, surtout des francophones. Puis, à partir des années 1820, les francophones vont retourner à Havre-Aubert, qui est pas très loin de là. Et c'est là que l'immigration anglophone va permettre à l'île de se développer. Les Dixon vont être une des premières familles à s'y établir. Ils viennent d'Irlande. Pas étonnant quand on connaît les mouvements de population du 19e siècle. Et encore moins étonnant quand on voit que le paysage de l'île d'entrée, comme je vous le disais, ressemble à s'y méprendre à l'Irlande. Oui, ce territoire-là est familier pour les Irlandais. Dans un premier temps, on va lui donner le nom de White Island, en référence, dit-on, au nombre impressionnant de phoques et de morses qu'on aurait retrouvés. Cependant, c'est le village anglophone de Entry qui va donner son nom à l'île, soit Entry Island ou île d'entrée. Les recherches réalisées par Justin Chenel et Candy Atkins, que l'on peut d'ailleurs apprécier au musée de l'île d'entrée, rapportent que, d'après le recensement de 1831, on retrouve entre autres les noms de famille suivants, McLean, Dixon et Nolan. Aux Irlandais s'ajoutent maintenant des Écossais et des Néo-Écossais. La population continue de s'établir au 19e siècle pour former une petite communauté autonome. Des chevaux et des vaches ont été amenés, ce qui permet maintenant de cultiver la terre. Si aujourd'hui l'île d'entrée compte très peu d'arbres, à l'époque, il y en avait davantage, mais ils ont été coupés pour construire des maisons, ce qui a laissé de grands morceaux de terre défrichés et soumis au vent. En 1850, on va même jusqu'à construire un moulin à grains, qui est aujourd'hui malheureusement disparu. On cultive l'avoine et différents légumes, notamment la pomme de terre. Au début du 20e siècle, on estime que l'île est autosuffisante avec une production de lait, de beurre, de fromage et de viande. Ceux qui habitent l'île sont souvent des pêcheurs. Le hareng, l'éperlan, le maquereau, la morue et le homard sont les prises qui rapportent le plus. Cependant, la communauté établie sur l'île d'entrée reste malgré tout fort modeste, en nombre et en argent. On pourra d'ailleurs s'en rendre compte au musée où plusieurs objets du quotidien sont exposés. L'hiver sur l'île, on pourrait croire que les gens étaient coupés du monde, mais en fait non. Quand les glaces se formaient, on pouvait profiter d'un pont de glace qui reliait l'île d'entrée et Havre-Aubert. Fait intéressant, les habitants de l'île d'entrée vont activement participer aux deux guerres mondiales. On peut d'ailleurs voir le nom de ceux qui se sont enrôlés ainsi que leurs états de service au musée. Tous anglophones, ils voulaient naturellement défendre leur mère patrie. L'Angleterre, ou plutôt l'Irlande, l'Écosse, selon leurs affiliations. On voit également les tombes dans le cimetière de l'église anglicane Church of All Saints, qui a été construite en 1895 avant d'être détruite et reconstruite entre 1948 et 1950. Si vous avez le temps, il faut absolument aller faire une promenade dans la prairie commune pour rejoindre Big Hill, qui, comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur l'histoire des îles, est le point culminant avec 174 mètres et qui rappelle dans la formation géologique que les îles de la Madeleine font partie de la région des Appalaches. Ce qui est particulièrement captivant de la promenade, c'est qu'on a l'impression qu'on trône en plein milieu de la mer sur un petit récif. Les vents en haut de Big Hill sont souvent particulièrement forts et, dans mon cas, j'ai adoré. Ça donne une impression de se faire balayer par la vie. C'est fort et c'est apaisant à la fois. Il ne faut surtout pas vous arrêter à Big Hill. Continuez la promenade pour profiter des autres sommets aux alentours, mais surtout pour admirer les paysages formés par le gypse gris, le grès rouge et l'ocre. Les rochers Andromache et la pointe de la Cormorandière, c'est tout simplement à couper le souffle. Enfin, je vous en parle depuis tout à l'heure, il faut absolument aller voir le musée de l'île situé dans l'ancienne école, qui malheureusement n'est plus en activité. L'école, parce que le musée, lui, il est magnifique. C'est un must, comme on dit. On y voit plein d'objets, des cartes, des peintures, des gravures et des maquettes. vraiment, manquez pas ça. Aujourd'hui, la population décroît sur l'île. De 95 personnes en 1995, on est passé à 70 en 2017. Mais ça doit surtout pas vous empêcher d'y aller, parce que vraiment, là, moi, j'ai adoré. Si un lieu qui est fondamental à visiter aux Îles-de-la-Madeleine, c'est sans aucun doute celui de La Grave, où on retrouve de très belles maisons, mais aussi des cafés, des restaurants. Et entre vous et moi, là, les cafés, j'y ai passé pas mal de temps à travailler sur l'histoire des îles, mais aussi à flâner sur une magnifique plage de galets, à voir le vent, la mer, le soleil, les nuages. Or, tout ça, là, je vais juste vous en parler, puis j'ai envie d'y retourner aux Îles-de-la-Madeleine. Et La Grave, il faut y aller. Et si vous voulez en savoir plus, apprendre sur l'histoire de La Grave, je vous conseille fortement d'écouter un balado spécifiquement sur le lieu, une espèce d'audioguide par des petites sections où on en apprend sur différents espaces, les habitations des pêcheurs, l'ancien quai du gouvernement, les boutiques, les quais, comment on est arrivé au déclin des activités, mais plus encore sur la salle de spectacle, les commerces, les fumoirs, etc., etc. Vraiment, là, c'est à écouter. Et d'ailleurs, La Grave, c'est pas très loin du musée de la mer. En fait, là, c'est à côté. Donc, vous faites d'une pierre deux coups et vous allez, après avoir vu La Grave, visiter le musée de la mer. C'est à ne pas manquer, vraiment. La plage de Sandy Hook, qu'on appelle aussi plage du Havre-Aubert, est sans doute un des éléments à côté duquel il ne faut pas passer. Pourquoi? Parce qu'elle est longue de 12 km. On peut se promener très, très, très longtemps. Ici, mon caméraman et moi, on s'est procuré des vélos électriques de chez Vélo Évasion, bien sûr, à La Grave. Et là, disons qu'on s'est fait plaisir. On a roulé en toute quiétude, de manière tout à fait écologique, en profitant des paysages qu'il y avait devant nous. On peut voir, à la pointe du bout du banc, l'île d'entrée, qui est à 5 km, celle qu'on est allé visiter ensemble. Ben, en fait, vous étiez pas là, mais bref, c'est comme si vous étiez avec moi. Eh bien là, à la plage de Sandy Hook, on ressent vraiment la plage. Quand je vous dis ça, c'est qu'il y a juste du sable, partout, partout, partout. C'est une expérience presque mystique. Quand je dis mystique, là, ça veut dire qu'on ressent quelque chose de tellement fort qu'on n'est plus conscient de notre corps. Non, il faut croire que le jour où je suis allé, moi, il faisait très chaud, il y avait un gros soleil et il n'y avait presque pas de vent. Ouais, assez exceptionnel aux îles. Allez là, absolument. L'autre espace que j'ai particulièrement aimé, autant pour la tête que pour le ventre, c'est le fumoir d'antan. Vraiment, là, ici, on se retrouve au cœur des activités historiques des Îles-de-la-Madeleine, parce qu'avant, il y en avait tout plein de fumoirs. On apprend comment on fumait le poisson et comment on le fume encore aujourd'hui. C'est un des derniers espaces où on le fait. Vous pouvez visiter, bien sûr, mais surtout, vous pouvez manger différents types de poissons et même des pétoncles fumés. C'est délectable. Quand je dis que c'est délectable, ça veut dire que vous en prenez, vous en reprenez, vous en reprenez, vous en reprenez. Pour moi, c'est un grand coup de cœur. J'ai aussi eu la chance de faire une visite avec les gens qui tiennent le commerce et ils m'ont montré exactement comment ils procédaient pour le fumage du poisson. Si vous y allez en saison ou même hors saison, vous en faites pas, il y a toujours moyen de discuter avec eux pour qu'ils vous montrent ces dédales où on voit les poissons fumés. Je vous montre un peu ça à quoi ça ressemble ici. Je suivais mes guides qui m'expliquaient comment, à travers ce petit couloir, on allait arriver à l'espace où on fumait le poisson. Un des éléments très importants, c'est de vérifier si le poisson est bien fumé. Et quand c'est fait, ben il est temps de déguster. Si vous n'avez jamais goûté au hareng fumé ou encore au pétoncle fumé, c'est un must. En tout cas, moi, l'assiette que vous voyez là, je l'ai mangée en entier et j'en ai même repris une autre. Après, je n'ai pas honte, j'assume, je suis gourmand. Voilà. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai juste une chose à vous dire après ces deux vidéos sur l'histoire des Îles-de-la-Madeleine, c'est qu'il faut absolument y aller. Et pas nécessairement l'été, non. Il faut y aller soit l'automne, soit le printemps et même l'hiver. C'est là que les îles, selon moi, sont les plus belles. Donc, lancez-vous, allez-y, vous ne le regretterez pas. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!